France Inter.
Bonjour et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Inter. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons à la télé-réalité. Petit saut dans le temps, le 26 avril 2001, Loft Story s'installe dans le salon de millions de Français et provoque une déflagration télévisuelle et sociétale sans précédent. Pour la première fois, des anonymes enfermés sont observés 24 heures sur 24. Les Français sont à la fois fascinés et sous le choc. Voyeurisme, manipulation, exhibitionnisme, les critiques pleuvent, les politiques s'en indignent et pourtant, l'audience explose car la télé-réalité a cette capacité de tout absorber avec une stratégie ultra efficace, celle de créer du scandale et de le transformer en spectacle. En 20 ans, la télé-réalité et ses candidats sont devenus une partie non négligeable du paysage médiatique, un paysage qui a aussi évolué. Les formats se sont transformés, laissant place à une télé-réalité plus bienveillante et consensuelle. Mais une télé-réalité trop lisse peut-elle vraiment séduire? N'est-ce pas en contradiction avec son ADN initial? Et peut-on surtout vraiment moraliser un genre qui s'est bâti sur le clash et la transgression? Pour autant, le trash n'a pas totalement disparu. Des programmes comme Frenchy Shore continuent de miser sur les excès. Dès lors, la télé-réalité est-elle condamnée à osciller entre ces deux pôles, le politiquement correct ou le scandale? Pas si sûr. Drag Race France, immense carton de France Télévisions, démontre que le genre est capable de se réinventer en proposant un programme queer, politique, qui parle autant de diversité que d'art du spectacle. Mais est-ce une exception ou un nouveau modèle qui s'installe? La télé-réalité de demain sera-t-elle plus inclusive, plus en phase avec son époque ou va-t-elle éternellement recycler ses vieilles recettes sulfureuses? On en débat jusqu'à 12h45 avec nos invités et puis avec vous. Posez-nous vos questions sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio Christelle Murula. Vous êtes journaliste et autrice. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Saskia.
Bonjour à vous Maureen Lepers. Vous êtes docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, chargée d'enseignement à la Sorbonne Nouvelle. Vous donnez notamment un cours sur la télé-réalité française et ses évolutions.
Bonjour, merci.
Et au téléphone avec nous, Ginger Beach, drag queen, candidate de la saison 2 de Drag Race France. C'était en 2023. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Alors, on l'a dit, la télé-réalité a évolué, a changé depuis 2001. En voici une illustration pour se plonger dans notre sujet.
Vous êtes pour l'instant en équilibre sur un rectangle de 20 cm par 15.
Mademoiselle a fait des infidélités ce soir en boîte de nuit et monsieur n'était pas au courant.
Il y a deux défis du coup aujourd'hui. Se faire aimer la blanquette de veau et la faire aimer au chef Alain Ducasse.
C'est que j'ai de la misère à croire que si je peux être aimée.
Elle a une voix cristalline, elle est souvent très juste.
T'échanges pas mes indices. Je m'en fous.
Alors, je ne vois pas Ginger Beach qui est au téléphone, mais en tout cas, je vois nos deux invités en plateau, Maureen Lepers, et Christelle Murula. Vous êtes morte de rire à écouter ce petit montage.
Ça rappelle des souvenirs.
Ça rappelle évidemment énormément de souvenirs, mais c'est une vraie question. On l'entend, c'est très divers, la télé-réalité. Qu'est-ce qu'elle englobe exactement aujourd'hui, Maureen Lepers?
Je pense que c'est vraiment une bonne question pour commencer parce que c'est un des problèmes avec la télé-réalité et toutes les conversations qu'on peut avoir autour de cette forme télévisuelle-là, c'est qu'on a encore un peu de mal à l'attraper concrètement. Pour moi, il y aurait au moins deux façons d'entrer dans cette question de la définition de la télé-réalité. La première chose, c'est qu'il y aurait une sorte de définition un peu historique et je dirais industrielle de la télé-réalité qui naît en France, en tout cas avec le Loft, donc à l'orée des années 2000. Et ensuite, le format va un peu évoluer. Donc, ce serait une émission de vie, on dit aujourd'hui une collective. C'est-à-dire, on enferme des gens, grosso modo, une dizaine de candidats, candidates, plutôt jeunes, dans un décor qui est fermé complètement pour le Loft, qui va ensuite s'ouvrir, mais pas complètement avec les villas de, je sais pas, les Princes de l'Amour, les Marseillais, la villa des Cœurs Brisés, etc., etc. Et on regarde ces gens évoluer tous les jours. Alors, pas H24 comme on pouvait le faire dans le Loft. Ça, on le fait plus vraiment, y compris sur la Starac. Maintenant, les modalités sont un peu différentes.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il y a eu l'ARCOM, il y a eu le CSA, il y a eu des conversations sur les conditions de travail de ces personnes. Et du coup, voilà, les conditions de tournage aujourd'hui sont un peu différentes, même si elles ne se sont pas beaucoup assouplies par ailleurs. Mais donc, on met ces gens dans une villa, dans un décor qui est fermé, et on les regarde évoluer. Et à partir des rushs qu'on a pendant le tournage, on fait des épisodes qui sont quotidiens. Et ça dure une quarantaine de jours de tournage, 3-4 mois de diffusion. Ça, c'est la définition historique. Maintenant, il y aurait en même temps une définition qui serait plus une définition formelle de la télé-réalité. Et c'est là que la télé-réalité a beaucoup essaimé dans le paysage audiovisuel français depuis 20 ans, à savoir que la télé-réalité, c'est une écriture, en fait. C'est une façon d'éditorialiser les programmes qui va chercher, comme ça, par exemple, les interviews narratives, ces interviews que vous avez face caméra, où on, dans La Villa des Cœurs Brisés, on dit « Alors là, on était en boîte, on rentre à la villa. » Dans Drag Race, on dit « Alors là, dans l'atelier, c'est un peu la folie, parce que ceci, cela. » Dans Top Chef, on dit « Alors là, la dorade, blablabla. » Ce genre de truc, ça vient vraiment de la télé-réalité historiquement. Vous avez aussi ce truc de créer du récit, de créer du conflit, etc. En fait, de fictionnaliser. Pas fictionnaliser au sens où on invente des choses, mais au sens où on met en récit, comme on mettrait en récit un film, une série, etc. On crée des événements, on crée des péripéties, on crée des personnages qui permettent de rythmer le programme. Ça
vient de la télé-réalité.
Voilà. On scénarise, mais on scénarise pas comme on scénariserait en fiction, c'est-à-dire avant le tournage. On scénarise à partir du matériel audiovisuel, à partir
presque
des rushs.
En temps réel.
Voilà, c'est ça.
Oui, et je plus
sur
ce que Maureen dit, et ce que j'ajouterais aussi, c'est que dans le Magnéto, on entend différentes émissions. C'est-à-dire qu'on oublie que la télé-réalité ne s'arrête pas qu'à des jeux d'enfermement, qu'à des émissions où on est dans des villas, etc. Koh-Lanta, c'est aussi de la télé-réalité. Top Chef, c'est aussi de la télé-réalité. Sauf que ces émissions-là sont considérées comme peut-être un peu plus nobles que les autres parce qu'il y a un véritable enjeu. Par exemple, l'enjeu de gagner un concours de cuisine ou l'enjeu de gagner un jeu d'aventure. Où là,
il y a toujours cet objectif de réussite.
Exactement, il y a toujours un objectif de gagner, un peu moins dans les télé-réalités d'enfermement ou alors dans des villas, etc. Mais il y a quand même toujours un objectif, des objectifs qui sont considérés comme beaucoup plus nobles que certains autres. Là aussi, où dans un Top Chef ou dans un Koh-Lanta, il y a un casting qui est plus âgé que la moyenne, je dirais, beaucoup plus âgé que ce soit Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, etc. Avec aussi des personnages, si je peux dire ça comme ça, les personnages qui sont, comment dire, un peu plus Monsieur Tout-le-Monde que ce qu'on a pu voir aussi dans d'autres types de télé-réalité. Ce qui fait que la télé-réalité en soi est vraiment très riche et que beaucoup de personnes regardent de la télé-réalité sans même s'en rendre compte.
Encore aujourd'hui ?
Oui, je pense.
Ginger Beach, vous êtes avec nous au téléphone. Quelle est votre vision, vous ? Comment vous définiriez la télé-réalité aujourd'hui ?
En fait, c'est exactement ce que vous dites. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend pas compte que des émissions, par exemple comme Top Chef, étaient une émission de télé-réalité. Et c'est vrai que ça paraît beaucoup plus noble parce que je pense qu'il y a un casting qui est plus fort sur des émissions comme ça. On va caster des personnes peut-être plus âgées, des personnes qui ont des parcours de vie peut-être plus atypiques que dans certaines villas des cœurs brisés où là, on va juste chercher des personnes qui vont être rigolotes, faux-folles et qui vont faire le show. Donc je pense qu'on est sur des émissions, oui, je pense qu'il passe beaucoup plus de temps à caster les candidats sur des émissions comme ça, parce qu'il y a un vrai enjeu à la clé, il y a une récompense à aller chercher, et je pense qu'ils vont vouloir retrouver des personnes qui sont compétitives, qui ont des choses à raconter, qui ont des histoires et des parcours de vie différents, quoi.
Et on va en parler effectivement de ces personnes, de ces personnages, parfois on peut dire aussi, qui participent à ces télé-réalités. Une autre question pour faire aussi encore un petit point d'étape avant de se lancer effectivement dans d'autres thématiques. D'où vient le concept de la télé-réalité ? Peut-être qu'est-ce qui fait la spécificité de la télé-réalité française, Maureen Lepers ?
Ah, c'est une bonne question. Alors, la télé-réalité comme forme, elle vient d'un peu partout dans la télé, je dirais, occidentale. Les premières émissions, etc., c'est pas des émissions françaises. Le modèle, par exemple, du Loft, c'était une émission néerlandaise. C'est une émission qui s'appelait Big Brother. C'est une émission qui a beaucoup marché, qui a été déclinée dans plusieurs pays, plusieurs nationalités, etc. La télé-réalité, et y compris la télé-réalité française, pour moi, et c'est en ça qu'elle est importante aussi pour l'histoire globale de la télévision et des médias par ailleurs, c'est que c'est vraiment une sorte de forme un peu composite. C'est-à-dire qu'elle arrive à un moment où elle va permettre de faire somme avec, enfin, pour des formats qui sont un peu déjà là. Par exemple, tout le monde, quand le Loft arrive, donc encore une fois, à l'orée des années 2000, tout le monde va souligner un peu le caractère novateur de cette émission, dire que voilà, c'est un peu du jamais vu, etc. Pour moi, c'est vrai qu'en partie, parce que quand on regarde un peu le contexte télévisuel qui est celui de la télé française au début des années 2000, vous avez déjà un peu tout le matériau qui va faire la portée du Loft qui est en place. Vous avez des émissions comme les qui sont implantées depuis les années 80 qui font un peu état de la vie intime des Français, des citoyens un peu ordinaires, etc. On va chercher, voilà, qu'est-ce que vivre à... Enfin, je sais pas, j'ai plus de sujets, d'exemples d'émissions que je donne à mes étudiants. Mais il y a par exemple une émission incroyable de Mireille Dumas, comment vivre l'inceste, par exemple, ce que je trouve fou. Donc on a ce genre de thématique déjà, à la fois de l'intime et un peu du trash scandale, donc choix de vie avec 25 000 guillemets controversés, etc. Donc vous avez ça, vous avez les émissions en plateau, vous avez l'explosion de figures un peu d'experts comme les psys, etc., qui sont devenues très très importantes sur les plateaux télé ou dans les journaux télévisés, etc., etc. Donc en fait, tout ça c'est mis en place pour que la télé-réalité elle puisse émerger comme forme. Et pour moi, c'est vraiment une forme audiovisuelle qui a ceci d'intéressant, qu'elle fait vraiment somme, en fait. Qu'elle amalgame des choses qui sont un peu déjà là, qui viennent ou de France ou aussi des États-Unis, de la télé anglaise, avec les docu-soap par exemple, qui étaient ces documentaires où on suivait sur plusieurs épisodes des familles ou des situations un peu particulières, etc. La télé-réalité, elle s'inspire de ça, elle secoue, elle fait une sorte de shaker.
Mais cela dit, est-ce qu'on peut parler d'authenticité dans la télé-réalité ?
Alors, je pense que c'est une autre, c'est une question un peu annexe, je dirais. La question de l'authenticité dans la télé-réalité, elle est ambiguë, ambivalente, au sens où à la fois la télé-réalité va avoir, en tout cas la télé-réalité de vie collective et aussi des émissions comme Top Chef, comme il faudrait en parler avec Ginger Beach, mais comme Drag Race, etc., au sens où on crée les conditions pour que l'émotion forte, le stress, etc., arrive pour les candidats. C'est des émissions qui fonctionnent sur un peu la surprise, en tout cas pour les émissions de vie collective, on ne sait pas ce qui va se passer, les candidats sont toujours dans le flou de comment la journée va se dérouler, de qui ils vont rencontrer, est-ce qu'ils vont être confrontés à leur ex toxique qui leur a plus ou moins tapé dessus pendant des années, etc., etc. Donc l'émission, elle fonctionne là-dessus, il faut pas que le candidat soit au courant, parce que sinon l'effet de surprise s'écroule. Donc on a besoin de cette authenticité-là, d'émotion, et en même temps, c'est une authenticité qui est fabriquée, au sens où dans le dispositif de tournage, on crée les conditions pour que l'émotion elle arrive, et ensuite, tous ces rushs-là sont retravaillés en post-prod, et c'est monté, etc., pour faire du récit. Donc la question de l'authenticité, elle est duelle, à mon sens.
Ginger Beach, justement, vous qui avez participé à la saison 2 de Drag Race, c'est quoi ? C'est la réalité ? Ou est-ce que c'est scénarisé ?
Non, sur Drag Race, c'est vraiment la réalité. C'est vrai, comme vous disiez, il crée des conditions. Bah, déjà, on est fatigué parce que c'est des heures et des heures de tournage par jour, donc on est fatigué. On ne sait pas comment va se dérouler la journée. Quand on arrive le matin dans la workroom, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quel challenge on va avoir à réaliser, quelle personne on va rencontrer.
Donc, dans le studio, vous voulez dire la workroom ?
Oui, pardon. Oui, la workroom dans Drag Race, c'est la pièce principale où on a nos postes de maquillage, où on vit en fait la journée. C'est dans cette, on appelle ça la workroom.
Mais il y a tout de même une cinquantaine de personnes, je pense, présentes, des caméras, etc. Est-ce qu'on peut être réellement authentique quand on est observé?
Alors en fait, oui. Alors il y a un coin où, alors déjà il y a plein de caméras qu'on ne voit pas parce qu'elles sont derrière les miroirs. Mais oui, il y a quelques personnes qui sont en face, mais qui restent vraiment en retrait. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous disent, bah, par exemple, nous, quand c'est des séances de maquillage où, en fait, on parle un peu de nos vies, en fait, ils vont juste nous dire, bah, tiens, aujourd'hui, on va parler, par exemple, tiens, Ginger, elle va nous expliquer comment on faisait un coming out, par exemple, dans les années 90. En fait, ils balancent le sujet et après, c'est vraiment genre nous qui discutons et qui débriefons entre nous. Et par moments, l'émotion, elle monte parce qu'on parle de notre passé, on parle de nos parents, on parle de nos familles, de nos vécus, de nos combats, etc. Et tout ça, par contre, c'est ultra sincère. À aucun moment, ils nous forcent à pleurer ou nous forcent à parler d'un tel. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, à partir du moment où ils nous donnent le sujet, ils n'interviennent plus du tout pendant toute l'après-midi où on est en train de se préparer.
La télé-réalité est-elle plus en phase avec son époque? On va continuer à en parler sur France Inter. Je vous propose d'écouter pour l'heure fixe de Choses Sauvages. De Choses Sauvages. Il est midi 21 sur France Inter.
France Inter. Le débat de midi.
Ça me plaît pas parce que le niveau intellectuel, je le trouve très bas.
En fait, il y avait beaucoup de problèmes et les gens, il y avait toujours qui étaient là pour rigoler. Du coup, c'était drôle, mais au bout d'un moment, c'est bon quoi.
C'est une course à la célébrité, je trouve, dans ces dernières téléréalités. Qui est un peu dommage.
Il y a une surenchère dans la connerie quand même.
J'ai toujours un peu considéré ça comme un peu bête, un peu pour se vider l'esprit, mais genre pas de manière intelligente du tout.
On est content de voir que on a une meilleure condition parfois que certaines personnes qu'on voit dans ces téléréalités. Donc plaisir coupable, mais aussi plaisir de l'identification.
Voilà, qu'en pensent les téléspectateurs aujourd'hui. Ryan Salvi est allé tendre son micro pour nous dans les rues de Paris. Une réaction, tiens, Christelle Murula.
Oui, ça montre à quel point la télé-réalité, malgré tous les efforts qu'elle a pu faire, est toujours assez méprisée en fait par une partie de la société.
Méprisée ou plus en phase?
Je pense un peu des deux, quand même. Méprisée parce que la télé-réalité, ça reste quand même de la culture populaire et tout ce qui est culture populaire est considéré comme une sous-culture. Donc forcément, tout ce qui est sous-culture, ce n'est pas légitime, ce n'est pas de la culture légitime, etc. Et plus en phase...
Elle continue aussi à être toujours très provocatrice, la télé-réalité.
Alors,
une certaine télé-réalité,
voilà, une certaine télé-réalité. Je pense que, alors qu'il y a peut-être 10-15 ans, la télé-réalité était à majorité provocatrice, je pense que le spectre s'est peut-être déplacé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des programmes comme Frenchy Shore qui sont quand même très trash.
L'expliquer en deux mots?
Alors, Frenchy Shore, ce sont plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui sont dans une villa à proximité du Cap d'Agde, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est du trash.
Mais ce n'est pas passé à la télévision. En
exactement,
parce que ça ne respectait pas les règles de l'ARCOM, justement.
Exactement, c'est passé sur une plateforme et ça passait aussi quand même sur une chaîne de la TNT, mais très très tard, donc à 22 ou 23 heures avec des avertissements. Donc il y a Frenchy Shore qui est considéré comme très trash parce qu'il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de clashs et des clashs qui ne sont, comment dire, pas vraiment montée. Pareil, les scènes de sexe, elles sont à peine voilées.
Et il n'y a pas d'enjeu non plus, il n'y a pas de concours.
Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'enjeu, ils sont juste au Cap d'Agde pour faire la fête et pour s'amuser. Pour s'amuser. Et d'un autre côté, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de télé-réalité et on a beaucoup d'émissions qui reviennent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a...
De ce type-là, vous voulez dire?
Non, des anciennes émissions qui pouvaient être considérées comme...
Du recyclage.
Exactement, c'est complètement du recyclage, mais avec une image un peu plus lisse, une production beaucoup plus lisse qu'avant.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on avait avant Star Academy qui est revenu il y a 2-3 saisons. Bah avant, à Star Academy, on avait quand même la sensation que dans les premières saisons, ce n'était pas forcément les talents de chanteurs qu'on recherchait auprès des candidats. Il y avait pareil beaucoup de clashs qui étaient à peine montés. Et enfin, quand on regarde aussi les vidéos d'antan, c'est beaucoup de sexisme. C'est très violent. C'était très violent à regarder Star Academy à une époque. Et aujourd'hui, c'est vraiment considéré et marketé comme un programme de divertissement, un programme centré sur la musique, l'artistique. Voilà, c'est marketé comme étant une école, une véritable école de chant, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque.
Mais le public ne réagit pas forcément dans ce sens-là. On pense à Ebony, par exemple, qui était
exactement
en finale. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots.
Exactement. Donc Ebony, qui était en finale de la dernière saison, qui était considérée comme l'une des meilleures candidates.
Artiste.
Voilà, vraiment l'une des meilleures artistes, que ce soit sur le chant, la danse, la comédie, c'était vraiment, elle était considérée comme la meilleure. Sauf que Ebony est une femme noire. Et le fait est que beaucoup de téléspectateurs de la Star Academy ont fait subir un acharnement sur les réseaux sociaux à Ebony, un cyberharcèlement très clairement raciste. Voilà, c'était des dizaines et des dizaines de milliers de messages à caractère raciste envers Ebony, à tel point que TF1 a quand même dû écrire un communiqué qui, certes, occultait totalement le mot racisme dans ce communiqué, mais TF1 a dû réagir pour justement calmer les téléspectateurs. Et pareil, Ebony, ça l'a encore suivi après ses attaques racistes, que ce soit dans la tournée de la Star Academy puisqu'elle a tourné ensuite. Enfin, c'était quand même assez grand. Et il est arrivé la même chose avec Secret Story, qui pareil était une émission à l'époque sur TF1 qui était quand même très trash. Voilà, c'était beaucoup de clash, beaucoup de sexe, aussi des formes de harcèlement. Et aujourd'hui, Secret Story est revenu depuis 2 saisons et c'est vraiment centré sur le jeu. Voilà. On dit Secret Story, c'est un jeu, c'est plus forcément une télé-réalité.
Mais alors quoi, le trash s'est déporté du côté des téléspectateurs?
Je pense.
Et je vais peut-être vous poser la question à vous, soit Ginger Beach ou Maureen Lepers.
Oui, mais je ne sais pas si Ginger Beach veut réagir avant.
Ouais, en effet, le côté trash maintenant, c'est les internautes qui... On le sait, hein, de toute façon, nous, quand on a la chance, nous, avec Drag Race, d'être hyper bien suivis, hyper bien entourés.
Ça veut dire quoi, être bien suivi?
On a des entretiens avant déjà de rentrer dans le casting. Il y a plusieurs étapes et notamment l'étape du psy qu'on passe à la fin, où on a un entretien avec un psy qui nous explique ce qui va se passer derrière, parce qu'on va être exposé pour les bonnes raisons, mais aussi pour les mauvaises. C'est-à-dire que les gens, il y a vraiment une parole qui c'est que... Enfin, c'est normal. Moi, j'ai reçu des messages, t'es grosse, t'es moche, va mourir, tu mériterais de te pendre. Enfin, voilà, les gens n'ont aucune culpabilité d'envoyer ça en message privé, en plus, à la personne. Et en fait, c'est horrible parce que nous, pour la communauté queer, quand c'est des queers qui nous envoient ça, on s'est dit, mais en fait, les anciens harcelés deviennent les nouveaux harceleurs, en fait.
Et est-ce que vous avez accès à vos réseaux sociaux pendant le tournage?
Non. Donc maintenant, parce que déjà le tournage se fait en amont, donc personne n'est censé être au courant du casting, donc on n'a pas accès à nous. Et pendant les journées de tournage, ils nous prêtent nos téléphones portables, on n'a pas nos téléphones.
Et c'est indispensable, vous pensez?
Oui, bah oui, puis ça évite d'avoir des photos qui fuitent, et ça évite aussi qu'on soit... Là, on est concentré sur le jeu, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, on n'est pas tête en l'air en train de lire des messages ou de regarder à droite, à gauche, quoi.
Maureen Lepers.
Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été là un peu évoquées. Je sais pas moi par où commencer. Je trouve que c'est hyper important d'entendre des candidats de télé-réalité en fait parler de leur métier, parce que c'est encore quelque chose qui est assez mal connu et assez mal documenté aussi, c'est-à-dire les conditions de fabrication matérielle de la télé-réalité, des émissions en elles-mêmes, et du coup par extension les conditions de travail des
l'encadrement des candidats.
Donc à la fois l'encadrement des candidats, les conditions de travail de ces candidats et de ces candidates selon les programmes, parce que les conditions de travail sont vraisemblablement pas exactement les mêmes sur un programme comme Top Chef, Drag Race, ou La Villa des Cœurs Brisés, ou Frenchie Shore encore. Donc il y a ça d'un côté, et puis après il y a les conditions de travail aussi des gens qui fabriquent, toutes les équipes techniques, la régie.
Oui, parce qu'aujourd'hui déjà aussi les candidats sont considérés comme des salariés.
Alors, des salariés non, je suis pas sûre qu'ils soient tous payés en salaire, voire pas forcément, voire aucun par ailleurs. En termes vraiment de régime fiscal des candidats, moi je suis pas compétente là-dessus. J'ai une collègue qui travaille là-dessus qui aurait été plus capable de vous répondre que moi, qui est sociologue du travail, qui s'appelle Rachel Fabre et qui fait un travail vraiment incroyable sur le métier de candidat de télé-réalité. Mais en tout cas, ils sont considérés comme des travailleurs, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début, notamment au moment du Loft, etc. Et ça, il y a eu la jurisprudence L'île de la Tentation, par exemple, dans les années 2010, si je me souviens bien, où en fait, les candidats de L'île de la Tentation ont fait bloc et ont engagé un avocat pour faire valoir le fait qu'en fait, ils travaillaient. Ils abattaient du travail qui était presque du travail de comédien, au sens où il fallait qu'ils soient disponibles de telle heure à telle heure pour faire des images, etc. Que sans eux, en fait, l'émission ne pouvait pas exister, etc. Donc ça a un peu changé sur le statut, je dirais, juridique des candidats. Est-ce que ça a changé les conditions matérielles dans lesquelles eux, ils exercent le métier? Ça, c'est encore autre chose. Et ce que raconte Ginger Beach est pas du tout étonnant. Et encore, c'est à une échelle probablement un peu moindre, parce que c'est France Télé, parce que c'est une émission qui se veut bienveillante, etc., etc. Tout ça, ça peut aussi être une vitrine, qu'une émission comme Frenchie Shore, comme La Villa des Cœurs Brisé, etc., etc., où les conditions de travail sont extrêmement difficiles en fait pour les gens qui participent à ces émissions. Et l'autre difficulté qu'il y a, c'est que les candidats-candidates ont beaucoup de mal à se faire entendre comme des travailleurs légitimes, parce que ça rejoint ce que disait Christelle à l'instant. Comme c'est une forme culturelle extrêmement populaire et extrêmement méprisée collectivement, on a l'impression que c'est des luttes politiques qui ne sont pas légitimes à mener, en fait.
J'ai envie de vous lire quelques messages qu'on reçoit de nos auditrices, de nos auditeurs ici. Raphaël qui écrit « Aucun intérêt, la télé-réalité, ce n'est pas de la culture populaire, votre invité se trompe ». Francky qui nous écrit ceci « J'ai discuté aux Philippines avec des Philippins ayant été employé à l'occasion des premiers épisodes de Koh-Lanta. J'en ai déduit que c'était une grosse arnaque, tout était bidonné, scénarisé, les acteurs passaient une partie de leur temps dans un resort de luxe. Ou encore Dominique, classique, c'est un zoo humain, on observe les gens comme on observe les bêtes. Vous voyez les messages que je reçois là comme ça, sans faire de tri, qu'il y a quand même aussi beaucoup encore de défiance, ou en l'occurrence une défiance qui s'est bien installée aux yeux des téléspectateurs. On va continuer notre débat ici sur cette télé-réalité. Est-ce qu'elle sera mieux demain, hein? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Je vous propose de continuer d'en débattre avec nos invités juste après les Sparks, Drowns in a Sea of Tears sur France Inter. And she could keep it all in. Whatever bothered her, I had no idea. Or how big of a deal, or her lengths to conceal just how bad. We'd go to parties and we'd laugh with our friends. We'd have some drinks and that would help her pretend. It all was going great, no problem at all. She's the belle of the ball, and she does have it all, have it all. Sea of Tears de Sparks à 12h33 sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Et notre débat sur la télé-réalité continue en compagnie de nos invités Christelle Murula, journaliste et autrice, Maureen Lepers, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, chargée d'enseignement à la Sorbonne Nouvelle, et Ginger Beach, drag queen, candidate de Drag Race France saison 2, c'était en 2023. Et puis avec vous qui nous écoutez, avec Martine qui nous écrit ceci, la façon de parler dans les émissions de télé-réalité, de se faire des saloperies et le voyeurisme ont créé des spectateur décomplexé. Tout le concept de l'émission est construit là-dessus. Regardez, délectez-vous et regardez les injurier. Philippe qui nous écrit ceci, les plateformes numériques et leurs applications mobiles qui permettent à chacun de créer ses contenus personnels et d'inventer et montrer en quelque sorte sa propre réalité, n'ont-ils pas ringardisé les shows de télé-réalité? Et allez, je vous lis un dernier message de Thomas. Drag Race juge, classe et élimine des candidats. Je ne vois pas en quoi ceci est moderne. Le vernis queer ne change rien au fond de l'affaire, où il s'agit toujours de mettre les gens en concurrence. Drag Race n'est qu'une déclinaison habillée du néolibéralisme. Une petite réaction sans doute de votre part, Ginger Beach.
Moi, je trouve que vraiment le côté compétition, c'est pas ça le plus important dans Drag Race. D'ailleurs, on sait très bien qu'on est 11 candidates, il y en a qu'une qui va gagner. Donc ça, dès le début, on le sait dès qu'on rentre dans l'émission. Je pense que vraiment, c'est pour le coup, Drag Race, c'est vrai, ce que j'appelle vraiment une vraie émission éducative, parce qu'on va passer des messages sur la queerness. Il suffit demain un petit garçon qui regarde de ça, et il y a plein de gens qui. Moi, j'avais vu des posts où les gens disaient. On nous met des drag queens à la télé, comment je vais expliquer ça à mon enfant? Il n'y a rien à expliquer, en fait. L'enfant, il voit pas le côté malsain d'une drag queen. L'enfant va juste voir une personne qui se déguise. Et voilà, ce sont les adultes qui mettent quelque chose de malsain et qui vont parler de travestissement, de prostitution avec le drag. Alors que ça n'a rien à voir, c'est un art de spectacle, tout simplement.
J'imagine que votre regard a aussi évolué, Ginger Beach, puisque vous avez passé le casting du Love Story 2. C'était en 2002.
J'étais jeune. J'étais très jeune. Et j'avais passé le casting j'avais fait 3-4 étapes quand même, j'étais allé assez loin dans les castings. Mais alors pour le coup à l'époque, j'y connaissais absolument rien sur la télé-réalité. Je passais les castings, j'avais 20 ans et je me lançais là-dedans. En fait, c'était plus une course à la célébrité. Alors que là, Drag Race, je l'ai fait. J'avais 44 ans et beaucoup plus de recul. Je savais pourquoi je le faisais. Je savais les messages que je voulais passer. Je savais exactement ce que je voulais dire dans l'émission et que je voulais montrer aux gens que on peut avoir plus de 40 ans, être une personne XL et faire du drag et assumer ce qu'on est et sans que ça pose aucun problème. Et sans écouter les gens. Moi, quand j'ai commencé à faire du drag, tout le monde disait mais t'es trop vieille, t'es trop grosse, t'es trop ceci. Et en fait, j'en avais marre des gens qui me disaient que j'étais trop ceci pour pouvoir avancer. J'ai fait cette émission pour prouver que j'ai pas 20 ans, j'ai 44 ans, mais vous avez vu, moi je l'ai fait en fait. Et moi j'ai vraiment arboré le truc différemment. J'ai monté une société derrière, parce que tout à l'heure on parlait des statuts. J'ai monté une société, donc aujourd'hui j'ai une boîte d'événementiel qui emploie des personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens se rendent pas compte, c'est que derrière il y a des vraies carrières qui naissent, il y a des entreprises qui se montent, il y a des entreprises qui rémunèrent des personnes, qui embauchent des personnes, et ça va au-delà de ce qu'ils voient sur leur écran de télé en fait.
Mais justement, c'est une vraie question, ça. Qu'est-ce qui pousse les candidats encore aujourd'hui à participer à ce genre de programme? Et il y a toute la professionnalisation des candidats qui est aussi fortement mise en avant. C'est gens qui viennent chercher une visibilité et puis qui deviennent influenceurs. On a nombreux exemples. Est-ce que du coup, ça ne lisse pas aussi le type de profil qui arrive dans ce genre d'émission, Maureen Lepers?
Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. Alors déjà, sur les raisons qui poussent les candidats et candidates à participer à ces programmes, il faudrait leur demander. Moi, je ne peux pas parler pour les candidats et les candidates. J'en sais rien du tout concrètement. Est-ce que les candidats et candidates, est-ce que les profils des candidats et candidates se lissent? Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas parce qu'on a d'un seul coup toute une génération de travailleurs qui savent dans quel bourbier ils mettent les pieds que en fait on se lisse. En fait,
c'est un bourbier. Juste que, alors forcément.
Alors, ça dépend si... combien de temps on a pour répondre à cette question. Est-ce que tout travail en économie capitaliste est un bourbier? Moi, je pense que oui, mais après, je pense que c'est un autre débat, c'est une autre émission peut-être. En tout cas, les conditions, ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions de travail des candidats, des candidates et aussi des techniciens, etc., qui travaillent sur ces émissions sont extrêmement difficiles, etc., etc. Ça, c'est une réalité aujourd'hui qu'on ignore plus ou qu'on ignore moins. Du coup, ça veut dire qu'on a des candidats et des candidates qui arrivent avec à la fois un certain bagage, un certain type d'éducation aux images aussi, que peut-être on avait moins il y a 20, 25 ans, où les candidats
même.
Du Loft n'ont aucune idée de ce que ça veut dire d'être filmé H24. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas vraiment idée de ce que c'est, parce que quand on est derrière la caméra, quand on est le sujet de l'image, enfin l'objet de l'image plutôt, c'est hyper difficile d'estimer quelle image on va prendre de nous et comment cette image elle va ensuite intégrer un récit, un montage, etc., etc. Néanmoins, on sait que c'est quelque chose auquel on s'expose, et ensuite sur les conditions de travail, etc., les candidats candidates parlent entre eux, etc. Donc il y a une sorte de rapport de pouvoir entre les équipes de prod, les équipes techniques et les candidats qui potentiellement s'inverse un peu. Est-ce que ça lisse? Je suis pas sûre.
Je pense que vous avez un autre avis, Christelle Murella. Il y a davantage de contrôle chez les candidats?
Je dirais quand même que oui, mais ça dépend toujours du programme dans lequel ils postulent. Je pense que dans les téléréalités qui marchent le plus dernièrement, enfin que ce soit des Star Academy, des Secret Story aussi, qui a explosé cet été, je pense que les candidats savaient à peu près où est-ce qu'ils mettaient les pieds, parce qu'aujourd'hui, on connaît les rouages de la téléréalité, et puis il y a cette culture-là de la séquence, de vouloir absolument peut-être sa séquence, de savoir en fait que une phrase, une expression, une dispute pourrait propulser cette personne, je sais pas, à avoir un buzz, etc.
Mais c'est pas la même chose de le savoir que de le vivre.
Exactement, ça c'est clair. Donc après, c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils vivent avec ça. Et concernant le fait que les candidats aujourd'hui soient lissés, aujourd'hui, on pourrait dire que la télé-réalité, ça peut être un tremplin comme un autre vers la célébrité. C'est-à-dire que...
Comme quel autre tremplin?
Il y a des candidats aujourd'hui d'anciens candidats qui sont devenus des influenceurs, respectés, si je peux dire ça comme ça, dont on a complètement oublié le passé de la télé-réalité, leur passé dans la télé-réalité. Ça peut être un tremplin pour devenir influenceur plus vite, pour devenir comédien plus vite, pour devenir chanteur, interprète plus vite. Il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de personnes, enfin, je pense en tout cas, mais je ne suis pas à leur place, qui, quand ils sont dans leur télé-réalité, pensent déjà sensiblement à l'après. Comment est-ce que je vais utiliser ce tremplin-là pour créer une société, créer une carrière, pour sortir mon disque, pour passer des castings, etc., etc. Ce qui fait que cette conscience-là fait que ça peut potentiellement lisser les images de certains candidats, ou que certains candidats travaillent justement à lisser leur image, que ce soit dans la télé-réalité ou à la sortie directement.
Il n'y a donc plus rien d'authentique ?
Bien sûr que si. Bien sûr que si, il y a toujours quelque chose d'authentique, mais ça dépend encore et toujours des candidats en soi. Parce que les candidats peuvent avoir mille raisons de postuler en soi. Enfin, il y a pour certains, c'est pour rendre visible une histoire. Pour d'autres, c'est vraiment pour, devenir une star en sortant. Enfin, il y a mille raisons pour lesquelles les candidats s'inscrivent en télé-réalité.
Et ont-ils vraiment besoin de la télé-réalité, c'est intéressant, mon lapsus, la télé-réalité, parce que je reviens sur ce message de Philippe avec ces plateformes, ces réseaux sociaux, ces plateformes numériques qui entrent en concurrence. Est-ce qu'elle a besoin de se démarquer ou de chercher à se démarquer, cette télé-réalité des réseaux sociaux, pour pouvoir survivre, j'entends?
De se démarquer des réseaux sociaux pour pouvoir survivre.
Maintenant, tout le monde a finalement accès à la télé-réalité, mais en quelque sorte.
Je pense que...
Corinne Lepers.
Enfin, je suis désolée, je te coupe, Christelle, merci. Mais je pense qu'il y a une sorte de méprise sur la fonction de la télé-réalité, et est-ce que la télé-réalité veut faire de l'audience, et est-ce que ça compte pour elle d'être beaucoup regardée? Oui, ça compte pour elle d'être beaucoup regardée, parce que la télé-réalité a besoin de la conversation, elle a besoin de la polémique, etc., etc. C'est une forme qui existe avant tout pour qu'on parle d'elle. Ouais. Donc au moment où nous, ce qu'on fait là, on essaye de défendre bravement la télé-réalité, on fait quelque chose pour les émissions, pour le corpus, en tout cas pour le corpus des émissions historiques, Les Princes, La Villa, Frenchy Shore, etc. Je pense pense que c'est peut-être un tout petit peu différent pour d'autres types d'émissions. Et au moment où on dit la télé-réalité, c'est vraiment n'importe quoi, c'est des zoos humains, c'est le panopsis de Foucault, c'est la mort de la société, c'est le capitalisme, etc. On dit aussi des choses qui arrangent la télé-réalité. La télé-réalité, elle a besoin qu'on parle d'elle. C'est le seul truc qui l'intéresse. La deuxième fonction de la télé-réalité, c'est que, et c'est aussi là qu'elle a grandi, etc., c'est qu'elle s'est mise à remplir tout un tas de cases et de chaînes qui sont apparues dans le sillon de l'explosion de la télé française, et non pas de la télé-réalité française, de la télé française au moment des années 2010. Donc quand arrive la TNT, etc., etc., vous avez tout un tas de micro-chaînes qui arrivent, et il faut les remplir, ces chaînes, en fait. Il faut qu'elles donnent des images H24 aux gens qui, potentiellement, sur un malentendu ou pas d'ailleurs, vont les regarder. Donc la télé-réalité, elle a aussi cette fonction de remplissage dans le paysage audiovisuel français. C'est une forme télévisuelle qui coûte pas cher à faire. Tous les gens qui travaillent là-dedans, les candidats sont payés très très peu cher au regard des conditions de travail qui sont les leurs et des heures de travail qu'ils abattent et des conséquences qui sont celles des émissions. Donc ils sont pas payés très cher. Ce qui rémunère les candidats, c'est pas la télé-réalité en elle-même, c'est ce qu'ils font après de la télé-réalité de leur image.
Et donc l'objectif en quelque sorte de réussite, c'est déplacer non pas au sein même de la télé-réalité,
c'est un écosystème, si vous voulez. Donc tout le monde s'arrange comme dans n'importe quel écosystème socio-professionnel, tout le monde s'arrange des conditions qui sont en place. Les candidats, ils s'arrangent de ces conditions de travail parce que potentiellement ou ils sont dans un truc un peu utopique que ça va les amener vers quelque chose, la célébrité, ou alors c'est juste pour travailler. Et les équipes de prod, elles ont besoin de gens avec qui faire des images, en fait. Donc tout ça fonctionne un peu comme ça, quoi.
Une dernière question pour clôturer ce débat. Je veux un mot de chacun d'entre vous. La télé-réalité, ce sera mieux demain. Ginger Beach.
Moi, je trouve que la télé-réalité, c'est de mieux en mieux, je vais dire.
Christelle Murula.
Oui et non.
On n'en saura pas plus. Il faudra réécouter l'émission. Maureen Le Perse.
Je pense que ça dépend des luttes politiques qu'on choisit de mener.
Eh bien voilà, un débat de midi à relancer lors d'une prochaine édition. Merci à tous les trois, Christelle Murula, Maureen Le Perse et Ginger Beach d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le débat de midi. Merci bien sûr à toute l'équipe du débat, Aurore Mansip et Louise Morfois à la programmation, nos stagiaires Anaé Balista et Ryan Saibi, notre documentaliste Patricia Miura, une programmation musicale de Djoubaka, et cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Rémi Sistiaga.